Olivier de la Doucette, on va parler maintenant d'une expérience de terrain, du passage du domicile à l'EHPAD. C'est un moment très difficile, très délicat pour les familles. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui viennent vous consulter et qui vous interrogent sur le sujet ?
Oui, alors, je me propose, après ces propos très clairs de Bruno, ce qui est extraordinaire avec Bruno, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il a une réputation mondiale. Il y a un test qui s'appelle le test de Dubois, qui est utilisé dans le monde entier pour repérer les gens en stade prodromal avec la maladie d'Alzheimer. Et souvent, ces très grands chercheurs, on ne comprend rien quand ils vous parlent. Mais là, je crois que vous êtes d'accord avec moi, il sait se mettre à notre place et parler un français intelligible. Et on a vraiment beaucoup de chance. On a créé ensemble cette fondation. Et si elle s'est développée très rapidement et de manière assez positive, c'est parce que justement, Bruno a su communiquer aussi bien les messages importants. Alors, moi, je vais vous faire part de mon expérience de clinicien. Je suis un psychiatre. Et j'aime me définir comme un psychiatre gérontophile qui aime les personnes âgées. Je suis également gériatre. Et donc, depuis 30 ans, je suis des gens avec la maladie d'Alzheimer depuis leur domicile avec des petits troubles parfois. Parfois, ils sont juste déprimés. À d'autres moments, ils commencent une maladie d'Alzheimer jusqu'à leur décès au domicile ou en institution. Et ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous parler de cette phase extrêmement délicate dans la vie d'un malade d'Alzheimer, délicate pour lui, mais délicate également pour la famille, qui est le moment où on se demande s'il faut ou non envisager une admission, je préfère le mot admission, un placement, dans un établissement de type EHPAD. Il faut que ce soit une maison de retraite médicalisée, pour pouvoir l'accompagner dans le dernier tiers ou la dernière moitié de son parcours de malade Alzheimer. Alors, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 4 millions de personnes qui sont directement concernées par la maladie d'Alzheimer. Il y a à peu près 1 million de malades, mais comme on sait que ce n'est pas uniquement la maladie d'une famille, d'un individu, mais la maladie d'une famille, on estime qu'il y a au moins 4 millions de personnes qui, au quotidien, sont concernées. Et 60% de ces patients sont à domicile. Alors, si on regarde aujourd'hui les statistiques, on voit que un certain nombre d'entre eux sont également dans des résidences, que ce soit des EHPAD ou d'autres structures. C'est à peu près, 371 000 personnes en 2019. Alors, les gens qui restent à domicile, on va parler d'eux d'abord, et puis on dira un mot sur les institutions. J'aimerais en profiter pour donner un peu mon avis sur les EHPAD, parce que il ne vous aura pas échappé que l'actualité a été assez riche concernant les EHPAD. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est déjà un petit peu d'évoquer le domicile. La vie d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative, que ce soit Alzheimer ou des troubles apparentés, ce sont souvent ou les démences frontotemporales ou les maladies des corps de Lévy, la vie n'est possible que à la suite de l'organisation d'une logistique, d'une prise en charge à domicile plus ou moins complexe, plus ou moins simple, qui repose sur une chaîne de solidarité. J'emploie volontairement cette métaphore de chaîne de solidarité parce qu'il ne vous aura pas échappé que dans une chaîne, dès lors qu'on teste sa solidité, ce n'est pas le maillon fort qui nous intéresse, c'est le maillon faible. Et c'est le maillon faible qu'il faut toujours aller regarder pour tester la résistance de cette chaîne et la capacité donc à maintenir au domicile ou non le patient. Alors, cette chaîne de solidarité, elle dépend d'un certain nombre de facteurs. On a déjà les facteurs médicaux qui sont liés au patient lui-même. Il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, il y a des malades Alzheimer qui chacun ont leur symptomatologie, parce qu'en réalité, c'est une maladie qui s'installe sur un individu qui a sa personnalité, son histoire de vie, ses maladies associées, etc. Et donc, les prises en charge vont être très variables. Vous avez des patients très calmes, d'autres très agités, des patients sereins, d'autres très angoissés, et à chaque fois, la prise en charge va être différente. On a tendance souvent à associer Alzheimer à l'agressivité ou la violence. L'agressivité et la violence, soyons tout à fait clairs, n'est pas consubstantielle à la maladie d'Alzheimer. Ce sont le plus souvent ces troubles du comportement, les conséquences indirectes de la maladie d'Alzheimer. Les malades Alzheimer ont parfois des troubles du comportement parce que, pour la plupart, ils ont des difficultés à s'adapter. Bruno Dubois vous disait, la maladie, la démence, c'est un trouble des comportements adaptatifs. Les gens, petit à petit, deviennent de plus en plus dépendants. Eh bien, lorsque vous avez du mal à vous adapter à votre environnement, que cet environnement devient de plus en plus complexe pour vous, de plus en plus difficile à appréhender, ça génère habituellement une certaine forme d'anxiété. Mettez-vous à la place d'une personne qui, sans qu'on la prévienne, tout d'un coup serait précipitée dans un pays avec une langue peu familière et des comportements difficiles à comprendre. Eh bien, évidemment, cette personne serait très inquiète et cette angoisse pourrait se traduire chez elle par un comportement de fuite ou d'agressivité. Eh bien, nos malades Alzheimer sont un peu dans cette situation, mais à domicile, chez eux. Ils ne comprennent plus ce qu'on leur demande, ils ne comprennent plus l'univers dans lequel ils sont. Et donc, n'arrivant plus à s'adapter, vont être anxieux et cette anxiété va générer chez eux de l'agressivité. Et donc, ces troubles du comportement sont pas rares avec les malades d'Alzheimer, mais ce sont les conséquences donc, de la pathologie. Si on arrive à permettre au patient de s'adapter à son environnement, on va diminuer ces troubles du comportement. Donc, on va tenir compte du patient, on va tenir compte également de l'entourage direct. Les soignants de première ligne, qui sont des conjoints quand il y en a, les enfants, ou des soignants qui sont des salariés. Et chaque fois, il faudra analyser la capacité que ces soignants de première ligne ont à gérer au quotidien le vécu, les comportements de ce malade atteint d'une maladie neurodégénérative. Certains y arrivent très bien, d'autres pas du tout. On voit très bien, en réalité, gérer un malade d'Alzheimer, c'est comprendre son fonctionnement et trouver l'approche, le mode relationnel, la distance qui convient. Nous avons parfois des conjoints qui croient bien faire pour maintenir le patient en éveil, pour essayer de freiner le déclin, de les corriger en permanence. Chaque fois qu'ils se trompent sur les dates, sur les lieux, sur ce qu'ils disent ou ne disent pas. Mais non, tu sais bien, tu m'as déjà dit, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Bon. Alors, parfois certains conjoints acceptent, mais en général ils n'acceptent pas du tout, puisque eux-mêmes sont dans la méconnaissance de leurs troubles. Et ça leur tape sur le système très vite, et ils deviennent un petit peu agressifs. Et vous avez des épouses qui comprennent ça très vite, et qui s'adaptent, et d'autres pas du tout, qui sont un petit peu dans une espèce de logique à vouloir faire pour le mieux, et ça génère de l'agressivité. Donc vous avez des conjoints, vous avez des enfants qui comprennent tout de suite le langage, la manière d'entrer dans l'univers de ces malades, et d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Et ces gens-là, eh bien, on peut leur expliquer parfois ils ne comprennent pas, ne sont plus capables parce qu'ils sont épuisés. Et à ce moment-là, eh bien, c'est ce chaînon qui est fragile et qui va peut-être céder, sur lequel il faut se concentrer et peut-être justement proposer un placement. Vous avez ensuite les facteurs sociaux qui sont importants aussi à tenir compte. Les moyens financiers, on ne va pas proposer à quelqu'un ou une famille de maintenir à domicile un patient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, s'ils n'ont pas les moyens. Le maintien à domicile de ce type coûte plus cher qu'un EHPAD. Donc il faut être conscient de ça. Ne pas s'embarquer dans des scénarios non réalisables. Donc on tient compte des facteurs sociaux, des facteurs financiers, mais également la manière dont la famille interagit. Vous avez le conjoint, quand il y en a un, vous avez les enfants. Mais ensuite, vous avez la constellation familiale, qui, elle, va essayer de s'adapter plus ou moins bien. En général, la maladie d'Alzheimer a plutôt un effet déstabilisant sur les familles. C'est même parfois très déstabilisant. Ça déstructure, ça déconstruit et ça génère des tensions fortes, voire donc des conflits majeurs. Souvent, j'emploie la métaphore des plaques photos. Vous savez, vous êtes de la génération, maintenant les jeunes, ça revient, il paraît, les appareils de photos Polaroid. Moi, j'étais jeune, j'aimais bien aller à la Tour Eiffel, je suis parisien, et là, on avait des gens qui vous proposaient aux touristes de prendre une photo devant la Tour Eiffel avec des appareils Polaroid. Alors, moi, j'avais quelques années, et on appuyait sur le bouton, ça faisait bzzzt, et on voyait sortir une plaque grise. Et puis ensuite, on était fascinés parce que petit à petit, le relief apparaissait. En fait, c'était donc les UV ou les photons qui venaient frapper donc, eh bien, ces plaques, les sels d'argent, et qui permettaient donc de voir apparaître l'image. Les familles, en général, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir, surtout les familles nombreuses. Il y a des tensions, il y a des conflits qu'on garde pour soi au nom de l'unité familiale. Donc c'est un peu gris, on fait ce qu'on peut pour s'entendre, mais c'est parfois un peu compliqué avec les pièces rapportées, etc. Et celui qui maintient l'unité, c'est souvent le papa ou la maman. Mais s'il a la maladie d'Alzheimer, il ne peut plus jouer ce rôle. Et donc, cette photo d'une famille qui est un peu grise, mais qui fonctionne à peu près, petit à petit, cette maladie d'Alzheimer va taper sur cette plaque et on va voir apparaître les conflits du cadet qui ne supporte pas l'aîné parce que l'aîné est plus aimé par la mère ou par le père, de celle qui a divorcé et qui s'en veut d'avoir peiné son père ou sa mère, de celle qui n'est pas mariée et qui en a marre d'être tout le temps corvéable à merci, etc. etc. Et ce sont des maladies qui déstabilisent profondément les familles. Il faut tenir compte de cette équipe familiale quand on doit essayer d'orienter les familles vers un placement ou un maintien à domicile. Après, vous avez les ressources médicales et paramédicales. Si on est à la campagne, loin de tout, ce n'est pas la même chose qu'à Lyon ou à Paris, où on a des services de maintien à domicile qui fonctionnent bien. On arrive à trouver à peu près des toubibs compétents pour s'occuper de ses patients et de l'entourage. Vous avez également des facteurs environnementaux. C'est très important. Souvent, on oublie ça. Mais quand on est devant un problème d'un monsieur ou d'une dame qui vivent seul ou en couple au quatrième étage sans ascenseur et perclus d'arthrose, chez qui on commence à trouver un déclin cognitif avéré, on ne va pas lui dire qu'on va le maintenir à domicile. Ça n'a pas de sens. Tôt ou tard, il aura du mal à descendre, il ne pourra plus quitter son domicile. Donc très vite, on va essayer de lui proposer ou de le convaincre ou de déménager ou d'entrer dans un EHPAD. Donc on va tenir compte de cet environnement. De même qu'une personne qui est peut-être au rez-de-chaussée, mais dans un appartement étroit, on ne va pas lui proposer un maintien à domicile. Ça va être très très compliqué. Donc il faut tenir compte de tout ça. Ou une personne qui est par exemple dans une maison à la campagne avec plein de portes, très proche d'une forêt, une forêt dense, et qui s'est déjà perdue plein de fois dans la campagne, parce qu'on ne peut pas le surveiller nuit et jour, on sait que là, il y a un vrai risque d'errance en hiver, peut-être au milieu de la nuit, et on ne veut pas le retrouver complètement congelé le lendemain matin dans cette forêt, peut-être mourant ou mort. Donc, on va tenir compte de tout ça, on va tenir compte donc de l'habitat, c'est également un facteur qui est important à analyser. Alors, une fois que on a tous ces éléments en tête, on va également regarder pourquoi est-ce qu'on est sollicité par la famille, pourquoi est-ce qu'il y a une crise au sein de la famille, pourquoi est-ce que ce malade se trouve dans une situation de danger. Et il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent intervenir et qui disqualifient le maintien à domicile. Ça peut être, par exemple, des problèmes liés à l'errance. J'en parlais à l'instant, de ce monsieur ou de cette dame qui vivrait dans une maison à la campagne, isolée, proche d'une forêt, par exemple. Là, c'est un vrai problème. L'errance en milieu urbain, comme à Paris ou à Lyon, est beaucoup moins compliquée. C'est intéressant de voir, du reste, ce que je vous disais, ça fait des années que je suis des patients avec ces pathologies. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, une personne qui se perdait en ville, c'était un vrai problème et souvent on pouvait attendre 12 heures, voire 24 heures avant de le retrouver. Aujourd'hui, je rassure les familles, en général, en quelques heures, on le retrouve. Parce que les gens commencent à comprendre, ils voient quand il y a une personne qui visiblement est un peu perdue, ou les pharmaciens, ou éventuellement les fonctionnaires, que ce soit les policiers ou autres, on les retrouve assez rapidement, ces patients. Donc l'errance en ville est moins un problème qu'à la campagne. Après, vous avez aussi les problèmes d'errance la nuit, hein, l'agitation vespérale. Ça, c'est assez compliqué aussi parfois à gérer parce que ces maladies entraînent des dérèglements de la structure du sommeil. Les patients ont des sommeils agités, voire sont très insomniaques et récupèrent dans la journée des nuits agitées. Résultat, si on n'arrive pas à les caler, les régler dans leur sommeil, ils finissent par dormir dans la journée et s'agiter la nuit. Pour le conjoint, c'est absolument invivable. Il s'épuise très très vite. Et ça peut être un vrai problème. Donc on a également l'agressivité, j'en parlais tout à l'heure. Il faut essayer de trouver des solutions à l'agressivité, mais parfois on n'en a pas. La solution peut être comportementale, mais peut également être médicamenteuse. On a des traitements qui parfois sont très efficaces sur la gestion de ces troubles agressifs. On peut avoir des problèmes de sécurité du domicile. Vous êtes dans une maison avec étage, avec un escalier étroit, le monsieur est seul, sans surveillance, le risque de chute est majeur, ou une autre personne qui serait dans un appartement sans douche mais avec une baignoire et qui pourrait tomber dans sa salle de bain, etc. Des problèmes de sécurité, des besoins de prise en charge accrus, en particulier liés à des problèmes d'incontinence qui sont souvent un moment déclencheur de la demande de la part des familles quand le patient devient fortement incontinent, qu'il refuse par exemple des protections. Ça devient très compliqué pour les familles. On peut avoir également un épuisement de l'aidant familial. Ça peut être le conjoint qui tombe malade pour une raison ou pour une autre et le malade qui se retrouve seul à son domicile. Alors, quand on a analysé tout ça, il faut essayer de se poser la question, de savoir au fond, qui fait quoi, qui sont les acteurs de ce psychodrame. Habituellement, vous avez deux types d'acteurs. Vous avez le patient et vous avez l'entourage soignant. Et vous avez un certain nombre de scénarios. Vous voyez, il y a quatre situations différentes. Et à chacune, il faut essayer de trouver une solution. La première, le patient doit être admis et la famille est d'accord. Ça, c'est le scénario le plus simple. Il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Il faut là essayer de trouver le bon établissement. On en parlera tout à l'heure. Deuxième scénario, le patient doit être admis, mais la famille n'est pas prête. Ça arrive assez souvent, notamment dès lors que nous sommes avec un patient qui est au domicile avec son conjoint. Je vois ça, quel que soit le sexe, que ce soit un homme comme une femme, qui s'est mis en tête, le conjoint saint, d'être le mari ou l'épouse parfaite. Et qui, peut-être, à un moment donné, du reste, dans l'histoire de la maladie de son conjoint, malade, lui aurait dit « Ne t'inquiète pas, mon chéri, jamais je ne te placerai dans un EHPAD. » Ne jamais faire ce genre de promesse. Ne jamais faire cette jamais.
Et pourtant, c'est si fréquent.
Et pourtant, c'est très fréquent. Voilà. Ou en tout cas, si on l'a fait, accepter de revenir sur sa promesse. Il faut accepter de pouvoir revenir sur sa promesse. Mais je peux vous dire, et c'est paradoxal, parce qu'on parle d'une société qui abandonne ses vieux, qui n'est pas solidaire, etc. Je ne sais pas si c'est propre à la maladie d'Alzheimer, mais moi, j'ai rencontré un nombre incalculable de familles où je suis obligé de dire aux familles, arrêtez, arrêtez les frais. Vous allez vous tuer. Vous ne continuez pas. Madame, monsieur, regardez dans quel état vous êtes. Envisagez autre chose. Vous pouvez placer votre conjoint dans un EHPAD, l'admettre dans un EHPAD de qualité. Vous verrez, la prise en charge sera bonne et vous pourrez aller le visiter dans de bonnes conditions. Parfois, les conjoints l'entendent, mais parfois, ils ne l'entendent pas. Et on est obligé d'attendre qu'il tombe malade pour que le patient, à ce moment-là, soit transféré dans une structure plus adaptée. Donc, il faut pouvoir convaincre la famille ou le conjoint. Et ça prend du temps. Et d'expérience, je sais que nous ne sommes pas tout puissants. Il ne faut pas les forcer. Il faut juste leur expliquer ce qui se passe. Leur dire, voilà, à mon avis, vous prenez un risque parce que vous êtes en train de vous fatiguer à l'excès. Et imaginez que vous tombiez malade. Vous pouvez tomber malade du jour au lendemain. Vous allez être à l'hôpital. Qui va s'occuper de votre conjoint malade ?
C'est la culpabilité qu'il faut réussir à faire fondre.
Il faut faire fondre la culpabilité, absolument. Et ça passe aussi par des explications, et notamment des explications concernant les EHPAD. Et on va y arriver. Ensuite, vous avez le troisième scénario où le patient n'est pas prêt pour une admission et la famille veut l'admission. Ça arrive aussi. Ça arrive, alors c'est plus, je dois dire, des familles où... ce sont des où le malade est veuf ou veuve, le conjoint n'est plus là, et ou alors le malade est marié, mais c'est un deuxième mariage ou un troisième mariage, donc plus tardif, et où le conjoint est peut-être moins enclin eh bien, à faire les sacrifices nécessaires. Mais c'est souvent quand même eh bien, un monsieur ou une dame qui se retrouve veuf ou veuve, avec des enfants un petit peu éloignés, qui ne peuvent plus gérer leur père, leur mère à domicile, pour des raisons X ou Y, et qui aussi parfois perçoivent que le patient est dans le déni de ses troubles, ne réalise pas l'ampleur de ses difficultés, voit à quel point il prend des risques, voit à quel point il se met en danger, voit à quel point il bouleverse la vie de la famille, parce que c'est vrai que quand vous appelez vos enfants jour et nuit, alors qu'ils ont eux-mêmes leur vie professionnelle et familiale, ça peut être compliqué. Et bien à ce moment-là, on est dans cette situation numéro 3, où la personne malade ne souhaite pas être admise, et la famille, elle, dit que c'est une nécessité, voire une obligation. Alors il faut arriver à convaincre le patient. Et c'est compliqué, parce qu'en général, on n'y arrive pas. Alors, on a deux solutions, où on le place malgré lui, ou on attend la catastrophe. On attend que ça craque. Il va tomber, il va se casser le col du fémur, il va avoir un problème X ou Y, et à ce moment-là, il sera à l'hôpital, et de l'hôpital, on va essayer de le transférer dans un EHPAD. Ça sera compliqué.
Aller visiter des EHPAD ou aller profiter de solutions ponctuelles avec une semaine ou une période ponctuelle dans un EHPAD, ce sont des situations qui existent ?
Ce sont des situations qui peuvent être envisagées, mais en général, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que déjà, quand une personne âgée, sans trouble cognitif, est dans une situation où elle doit envisager d'entrer dans un EHPAD, c'est très très compliqué pour elle, c'est très angoissant. Personne n'a envie d'entrer dans un EHPAD. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui a envie d'entrer dans un EHPAD ? Levez la main. Personne, évidemment. On y va contraint et forcé, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, si vous y allez contraint et forcé parce que vous n'avez pas le choix, et que vous avez vos fonctions cognitives intactes, vous avez pesé le pour, le contre, et vous avez compris qu'il valait mieux entrer dans un EHPAD, et vous allez faire la démarche. Ça va être compliqué, très angoissant, et vous risquez même de ne pas être bien du tout dans les mois qui précèdent et les mois qui suivent. Imaginez un malade d'Alzheimer qui n'a plus les mêmes capacités pour raisonner, pour trouver les bonnes solutions, etc. C'est encore plus compliqué pour lui.
Et puis parfois, personne ne veut. C'est votre quatrième cas.
Et là, personne ne veut. Et c'est notre quatrième cas où effectivement, eh bien, personne n'est prêt à l'un ou l'autre, alors qu'il y a vraiment... nécessité. Et là, c'est à nous d'expliquer, de trouver des solutions, de faire des propositions. C'est pas simple, mais ce sont des situations qui peuvent arriver. Alors, choisir le type d'établissement. Aujourd'hui, vous avez trois types d'établissements. Le premier est de plus en plus rare, sont les maisons de retraite généralistes où il n'y a pas d'unité spécialisée pour les malades Alzheimer. Les deuxièmes sont les plus fréquents, maisons de retraite généralistes avec un étage pour des malades Alzheimer. Et les troisièmes, les plus qui existent, mais qui sont malheureusement pas assez nombreux à mon avis, qui sont des établissements totalement spécialisés où tout le monde a des maladies neurodégénératives à tous les étages. Donc le plus souvent, c'est les établissements de type 2 que vous allez rencontrer. Ces établissements donc proposent des unités Alzheimer. Ils disent que ce sont des unités de vie pour des malades agités avec des troubles comportementaux ou confus, etc. Pourquoi pas ? Dès lors que ce sont réellement des unités de vie et pas des unités d'exclusion. Parce que quand vous allez les visiter, parfois c'est vraiment triste, c'est totalement sinistre. Vous avez une vingtaine de patients qui sont là avec des prises en charge à minima et donc c'est pas très engageant. Mais vous avez aussi des EHPAD qui vraiment, eux, font des propositions avec des vraies prises en charge, un encadrement digne de ce nom, et là, ça en vaut la peine. Les troisièmes établissements, pour moi, sont idéaux à une condition, c'est que le patient soit arrivé à un stade évolutif de la maladie où il ne sait plus très bien où il en est, il est un peu confus, et à ce moment-là, il ne fera pas la différence entre des malades qui ont un niveau cognitif important et d'autres plus avancés dans la maladie. Et là, il y aura une prise en charge globale, les patients pourront déambuler librement dans tout l'établissement. Ma question, c'est comment on choisit un bon établissement ? Parce que c'est souvent une question, comment je fais si je dois choisir ? Alors, vous avez une liste là, voyez, de toutes les questions. Vous allez sur Internet, j'en ai mis là quelques-unes, mais il peut y en avoir encore plus. Le nombre de questions est illimité. Moi, j'ai trois suggestions à vous faire. Trois suggestions. La première, si vous choisissez un EHPAD, demandez à rencontrer la direction. Il faut au moins que vous rencontriez ou le directeur ou l'adjointe ou l'adjoint. Les EHPAD sont des structures pyramidales extrêmement fragiles qui dépendent beaucoup de la direction. Il faut que le directeur ou la directrice soit des gens empathiques mais qui aient de l'autorité. Empathie et autorité, ce n'est pas évident. Vous pouvez avoir beaucoup d'empathie et sans autorité. Et ça, ça ne va pas du tout marcher. Et si vous avez trop d'autorité, pas d'empathie, ça ne marche pas non plus. Parce que ce sont des métiers très difficiles où les gens font ça souvent en donnant leur cœur, mais il faut qu'ils soient valorisés. Mais ils ont aussi besoin d'être encadrés. Il faut qu'on soit là pour leur dire ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc empathie, autorité, et intelligence de la relation aussi, me paraissent des qualités absolument essentielles. Donc il faut rencontrer le directeur, et puis le sonder un peu, vous lui posez les questions que vous avez envie de lui poser, mais vous prenez le temps. Et si on vous dit qu'il ne peut pas vous recevoir, ce n'est pas bon signe. On n'y va pas. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de vous faire un peu une opinion, parce qu'on va vous faire une visite Potemkin. Faut pas rêver. Si on vous fait visiter un EHPAD, on va vous montrer tout ce qui est joli, et on va vous cacher le reste. Et vous ne le verrez pas, vous n'y aurez pas droit. Mais si vous voulez sentir l'ambiance d'un EHPAD, il faut vous installer dans l'entrée ou dans le salon qui est ouvert au public. À la fin de la visite, vous dites, écoutez, j'attends un taxi, je ne sais pas, je vais me reposer. Et vous vous installez, vous attendez là, une demi-heure, trois quarts d'heure, vous lisez un bouquin et vous regardez comment ça fonctionne, comment les patients interagissent entre eux, comment le personnel parle aux patients, comment les familles entrent dans l'établissement. Ça vous donnera des idées, vous comprendrez un petit peu mieux. Et puis la troisième chose que vous pouvez faire, vous avez dans tous les établissements maintenant ce qu'on appelle le CVS, c'est Comité de la vie sociale, dans lequel vous avez un représentant des familles, du personnel et de la direction. Et vous demandez le contact du représentant des familles et vous l'appelez. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous pensez de la maison ? Vous lui posez les bonnes questions. S'il est honnête, il vous répondra et il vous dira ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce qu'aucun établissement est infaillible. C'est des établissements, ils font ce qu'ils peuvent, c'est très très compliqué, ce sont des métiers difficiles. L'EHPAD bashing dont fait preuve au fond cette filière depuis 20 ans est à mon avis injuste. On a fait énormément de progrès dans la prise en charge des personnes âgées en EHPAD depuis 30 ans, énormément. ça se passe de mieux en mieux. La maltraitance est vraiment le fait d'une petite minorité. Il y a des choses de qualité qui se font, il y a toujours des abus, il y aura toujours des gens qui font. Mais vous savez, la maltraitance des personnes âgées, qui est hélas très fréquente dans notre pays, c'est 5 à 10% des personnes âgées. C'est à 80% à domicile. C'est pas dans les EHPAD, on ne parle que de ça, parce que c'est dans les EHPAD qu'on les voit. À domicile, ils sont planqués. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord ? Donc il ne faut pas inverser les choses. Les EHPAD, ce sont des établissements, ce sont malheureusement des mauvaises solutions pour des besoins réels. On n'a pas trouvé mieux aujourd'hui. Donc il faut aider les gens, il faut être critique, il ne faut pas l'être trop. Mais il faut aussi être conscient que ce sont des métiers très compliqués et on ne fait pas ça si on n'y met pas son cœur. Donc il faut aussi comprendre ça et encourager les gens qui font ce métier.
Ok.
Et voilà. Écoutez,
merci beaucoup pour
Et je vais m'arrêter sur ces bonnes questions. Juste un point qui me paraît important. J'étais encore un peu... Bon, c'est gérer sa culpabilité. D'accord ? Ça, c'est vraiment tout à fait indispensable quand on doit faire admettre quelqu'un dans un EHPAD. Il faut savoir gérer sa culpabilité. Il est impossible de ne pas se sentir coupable de placer quelqu'un dans un EHPAD. D'accord ? Mais personne n'est obligé d'être parfait. Personne n'est parfait. Donc il faut sortir de ce sentiment de toute puissance où je dois être parfait pour gérer papa, maman ou mon époux, mon épouse. Personne n'est parfait. Et parfois, les EHPAD sont une meilleure solution que le maintien à domicile. Voilà. Donc il faut savoir comprendre cette culpabilité, en parler avec les professionnels quand il y en a, et ça se passera beaucoup mieux pour vous et pour le patient.
C'est important, effectivement, que vous, qui revoyez les familles après, vous pouvez l'attester. Et on va l'entendre dans un instant également avec un témoignage d'une aidante. Effectivement, un EHPAD, c'est aussi un cadre, c'est aussi l'arrêt de se poser tout le temps la question « qu'est-ce qui peut se passer de mal à domicile quand je laisse mon proche à domicile ?» C'est aussi tout ce côté positif. Et vous, vous voyez les familles qui s'en trouvent soulagées, mais les patients aussi. Je crois que c'est vraiment important de le souligner. Ils se sentent aussi effectivement rassurés. D'où l'importance de ces bons conseils que vous venez nous donner. Parce qu'une fois qu'on a bien choisi l'établissement et on continue à y aller, à faire des visites, à poser des questions, à garder un œil averti, alors on est rassuré et on compagnonne avec l'équipe médico-sociale qui accompagne notre proche. C'est vraiment quelque chose d'important. Merci beaucoup, docteur Olivier de la Doucette.